D'accord. Bonjour, monsieur Anctil, ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Bien, moi, je m'appelle Maxime Dion et en ce moment, je suis en compagnie du professeur Pierre Anctil de l'Université d'Ottawa. Ce dernier a effectué beaucoup de travaux sur l'histoire juive contemporaine dans plusieurs continents comme en Europe ou en Amérique du Nord et même au Québec. Il a aussi fait beaucoup d'entrevues sur la Shoah et ainsi que son enseignement. Et c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui pour porter une entrevue sur la Shoah. L'antisémitisme, est-ce qu'il était manifesté de manière différente dans le reste de l'Europe à cette époque?
Oui, quand Hitler est venu au pouvoir en 33, en janvier 33, c'était une dictature. C'est-à-dire, il a aboli tous les droits fondamentaux. Il a aboli la liberté de presse, le droit de vote. Il a aboli essentiellement les tribunaux. Tout ce qui protège un citoyen de l'arbitraire des puissances, contre les puissances, les interventions de la police, les interventions de l'armée, les décisions prises par un parti politique totalitaire. Alors, quand Hitler est revenu au pouvoir, il a mis en place des mesures inéquitables, discriminatoires et violentes à l'encontre des Juifs, pour des raisons qui sont incompréhensibles et pour des raisons que lui a tenté de justifier qui sont pas acceptables.
D'accord.
Ça s'est pas passé en France ou en Grande-Bretagne ou au Canada de cette façon-là, ni en Russie soviétique. C'est vraiment un phénomène typique à la société allemande. La société allemande avait, avant Hitler, des éléments d'antisémitisme importants. Il y avait des préjugés, l'hostilité, la mise à l'écart, mais il n'y avait pas le projet d'éliminer toute la population juive d'Allemagne. C'est ça la différence. C'est ça qui a changé avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. C'est ça qui fait la Shoah. C'est un événement exceptionnellement grand, important sur le plan des conséquences que ça a eu. On regrette évidemment toute forme d'antisémitisme, mais quand on en arrive des formes génocidaires qui éliminent un peuple au complet pour des raisons qui sont obscures ou inacceptables, là, on atteint quelque chose de difficile à comprendre, difficile à justifier.
Au début, lorsque l'antisémitisme grandissait en Allemagne, c'était quoi les moyens entrepris par le pays pour exclure les Juifs?
Alors, au départ, en 1933, on a empêché les Juifs de pratiquer les professions courantes, le droit, la médecine. On a mis à la porte des universités toutes les personnes qui étaient d'origine juive, peu importe leurs compétences, peu importe leurs capacités, sur la base seulement de leur origine religieuse. On a aussi créé une catégorie raciale. Être juif, être noir, être asiatique ou n'importe quelle origine, c'est l'ensemble de facteurs qui fait que la personne a une identité qui peut être visible ou pas, perçue comme différente ou pas. Les Allemands ont considéré que les Juifs étaient une race inférieure et donc qui polluaient, qui dégradaient la race allemande, qui sont des faux concepts. Il n'y a pas de race juive, il n'y a pas de race allemande. Il y a l'humanité et ils ont créé des concepts artificiels, pseudo-scientifiques, qui leur ont donné des outils pour attaquer les personnes qui étaient nommément reconnues comme juives. C'est un processus extrêmement vicieux parce qu'il y a, y a rien qui justifie l'existence de race, il n'y a rien qui justifie que des personnes d'une origine donnée soient inférieures, soient incapables ou soient dangereuses pour un peuple plus grand. Alors, les Juifs en Allemagne étaient 1% de la population en 1933. C'est difficile de croire que 1% pouvait dominer toute l'Allemagne. Pourtant, c'est ce que Hitler a dit. Alors, il a considéré les Juifs comme une race dangereuse et il a mis en branle le processus d'extermination.
Comment les Juifs dans le pays ils ont réagi lors des premières persécutions dans le pays?
Alors, les Juifs en 33 ont dit, nous, on est partie de la société allemande. On est des personnes qui sont parfaitement citoyens. On s'est battu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. On contribue à la vitalité, à la richesse, à la complexité de la vie allemande. On n'est pas intéressé à être perçu comme une minorité. On veut être partie prenante, partie entière de la vie allemande. Et de fait, presque la totalité des Juifs allemands en 1933 ne connaissaient qu'une seule langue, l'allemand, et participaient parfaitement à la vie politique, économique, industrielle, culturelle de l'Allemagne. Alors pour les identifier, puis pour les sortir du dossier, pour les éliminer, il a fallu que Hitler établisse un certain nombre de services de police, un certain nombre de critères qui sont absolument farfelus, qui ne tiennent pas la route. Il l'a fait quand même. Et c'est comme ça qu'il a identifié des personnes, supposément d'origine juive, dont beaucoup en Allemagne ne pratiquaient pas le judaïsme, n'avaient pas une connaissance claire de leurs origines juives et souvent ne les considéraient pas comme importantes.
Par rapport à la terreur que Hitler utilisait, on savait qu'il l'utilisait souvent pour réduire la population juive au silence. Est-ce que les citoyens non-juifs de l'Allemagne pratiquaient des activités similaires?
Alors ça, c'est une question d'une très grande complexité. La plupart des exactions, des actions violentes contre les Juifs ont été commises par les SA, les SS et les polices politiques du parti nazi, qui avaient le droit d'agir de manière libre, sans contrainte, sans balise légale contre les Juifs. Les citoyens eux-mêmes, les voisins, les gens dans la rue, dans les parcs, les gens avec qui les Juifs travaillaient, la plupart n'ont pas fait cette chose. La plupart même ont voulu, il y a des cas très célèbres d'Allemands qui ont protégé des Juifs, qui les ont aidés à sortir du pays. Pour l'essentiel, c'est le régime nazi qui a commis les crimes, pas la population de tous les jours. Ça, c'est mon interprétation à moi. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est complexe. Mais je pense qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, avant 1939, qui là, la guerre change les conditions de vie, change les règles, change. Alors, on entre dans une autre dynamique avec une guerre. Mais en temps de paix, la plupart des Allemands, la plupart des gens qui n'étaient pas membres du parti nazi, qui n'étaient pas des agents du parti nazi, étaient peut-être antisémites, hostiles, mais n'auraient pas porté la main, n'auraient pas commis des crimes contre les Juifs.
Par rapport à la déportation des Juifs, il y en a beaucoup qui ont été amenés dans des camps de concentration, mais il y a aussi des Juifs qui ont réussi à s'échapper. Est-ce qu'il y a des pays où est-ce que les Juifs ont pu se cacher, c'est-à-dire qu'ils ont pu s'échapper du régime totalitaire?
Oui, surtout à partir de 1938, quand la situation est devenue beaucoup plus dangereuse et menaçante, parce que c'est une progression sur plusieurs années. Alors, la moitié des Juifs allemands ont pu quitter le pays. On parle d'environ 250 000 personnes. C'est quand même des groupes importants, là, qui ont pu, de toutes les manières possibles, vers la France, la Grande-Bretagne, vers l'Amérique du Sud, de toutes les manières possibles. Ces gens-là n'ont pas toujours été bien accueillis, au Canada particulièrement, mais dans d'autres pays aussi. Ceux qui ont pu fuir, beaucoup ont été rattrapés quelques mois plus tard, par exemple, quand les nazis ont envahi la France ou ont envahi la Pologne ou ont envahi des pays qui abritaient des minorités juives importantes. D'autres ont pu s'échapper, fuir l'Europe dans des conditions très difficiles et aboutir, sauver leur vie.
Il y avait des pays en particulier qui les excluaient ou qui interdisaient l'arrivée des Juifs à leurs frontières?
À peu près tous les pays d'Europe, à partir de 1938, vont avoir des barrières. La masse, tu peux imaginer, la masse de Juifs, 250 000 qui quittent, c'est un nombre tellement grand que la plupart des pays, ça inclut la Suisse, ça inclut la Suède, les pays baltes, ça inclut énormément de pays qui étaient neutres en général face à cette question, vont mettre des barrières parce que c'est pas possible de gérer une arrivée aussi massive de citoyens allemands. Le Canada va faire la même chose, les États-Unis aussi. Et alors, beaucoup vont prendre la mer, clandestinement ou ouvertement. Le gros des Juifs allemands qui fuient à partir du milieu des années 30 se retrouvent en Grande-Bretagne parce que c'était proche et les Britanniques étaient relativement tolérants de ça. Mais à un moment donné, la situation est devenue intolérable. Le nombre était trop grand. Pas admettre des dizaines de milliers de personnes en quelques mois, sans passeport, sans processus administratif. Alors, c'est là que ça a bloqué.
Par rapport en revenant sur la déportation de la population juive, est-ce que les citoyens ils ont eu une certaine résistance ou ça a été pas possible à cause des autorités allemandes?
Tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'un simple citoyen peut faire, hein, dans une personne qui est dans la vie de tous les jours, qui a des enfants, qui a un emploi, qui travaille, qui est inséré dans des réseaux sociaux. Quand quelqu'un cogne à ta porte, c'est la police nazie, puis t'es arrêté, puis t'es amené à Dachau. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. La seule chose que les Allemands, juifs pouvaient faire qui était efficace, c'était de fuir, de se cacher, de ne pas porter l'étoile jaune, de ne pas s'identifier d'une manière ou d'une autre à leurs origines juives, tenter de passer sous silence leurs origines. C'est à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire. Les nazis étaient extrêmement violents. Ils ont saccagé, synagogue. En 1938, ils ont mis le feu en novembre à 200 synagogues simultanément. C'est la nuit de cristal. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour arrêter des phénomènes comme ça. Ceux qui ont pu partir, ben, c'est à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire. En abandonnant tout, leur maison, leurs biens, parfois leur famille. Et les enfants étaient particulièrement vulnérables dans cette situation parce que les enfants ont au moins de force physique pour accepter des privations, des déplacements. Quand la guerre a commencé, en septembre 39, la persécution juive en Allemagne n'était pas terminée, mais elle s'est reportée sur les pays occupés, la Pologne, etc. Et les Juifs allemands qui sont restés ont eu un répit pendant un certain temps. Au début de la guerre, à cause de ça.
Est-ce que la déportation des Juifs, c'est un processus complexe?
À
Ouais.
partir de 42, 41, 42, les nazis bâtissent des camps. Oui, c'est un processus très complexe. D'abord, il faut identifier les Juifs. C'est pas simple. En France, particulièrement, c'était très difficile parce qu'il n'y avait aucune indication dans les documents officiels. Il y avait des listes qui circulaient, qui étaient petites et souvent inexactes. En Pologne, c'était plus facile jusqu'à un certain point, mais d'abord, il faut les identifier. Ensuite, il faut les regrouper. Il faut les mettre quelque part, dans un ghetto ou dans un camp de transit, en attendant de prendre une décision. Ensuite, il faut les transporter à Auschwitz ou à Majdanek ou à Dachau ou différents camps qui ont été construits. Ça prend plusieurs mois. Et ensuite, il faut soit les éliminer immédiatement à l'arrivée, ou il faut les faire travailler. On parle d'un processus qui touche une population, après le début de la guerre, de 6 millions de Juifs qui ont été éliminés après 1939. Tu peux imaginer à quel point c'est un processus complexe, long, difficile, coûteux, et en temps de guerre, difficile à mener. Et ça a été fait quand même. Et ça s'est terminé, en gros, à l'été 44. Quand les forces allemandes ont été obligées de retraiter de l'Europe de l'Est. Donc oui, c'est pas une marche dans le parc, c'est une affaire d'une très grande complexité. Beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'auteurs qui ont étudié la Shoah insistent sur le fait que ça prenait une planification, une capacité d'organisation très grande pour arriver à éliminer 6 millions de personnes en 2 ans.
En gros, moi, j'ai vu un documentaire sur la sociologue Hannah Arendt, et elle
Oui.
affirmait que les soldats qui ont commis des actes de violence, c'était surtout dû à la pression que leurs supérieurs avaient sur eux et leur incapacité de prendre une décision par eux-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la sociologue sur le fait que les soldats allemands n'étaient pas nécessairement mauvais en soi?
Ça aussi, c'est d'une très grande complexité. Hannah Arendt a parlé de la banalité du mal, que, bon, commettre un crime, tuer un juif, saccager une résidence, elle a expliqué, elle, que c'était devenu une chose banale, que tout le monde, bon, était encouragé, que les soldats, que les SS pratiquaient ce genre de comportement facilement. Ça a été remis en question beaucoup, sa théorie. Ça n'a pas été nécessairement accepté. Elle a écrit ça après le procès d'Eichmann à Jérusalem en 61, qui était un des grands organisateurs de la Shoah des Juifs hongrois. Eichmann a dit, moi, à son procès, j'ai répondu aux ordres. Beaucoup de gens qui seront condamnés ou qui seront amenés en procès après la guerre vont dire, moi, j'étais responsable de produire un résultat. et j'étais tenu à agir de telle façon. Alors, c'est extrêmement difficile. Certains individus ont refusé d'agir comme ça. D'autres ont tenté par tous les moyens d'en faire le moins possible. Et d'autres se sont joints facilement au massacre. Ils ont organisé les transports, ils ont fait souffrir les Juifs, les ont gazés. Alors, on n'a pas résolu cette question-là encore. Qui était responsable de quoi? Et qu'est-ce qui a motivé les gens qui ont commis ces crimes, surtout à un certain niveau? Qu'est-ce qui les a motivés à poursuivre pendant de longues périodes des plans, des organisations qui menaient à la disparition des Juifs de façon massive?
Suite à la libération des survivants qui étaient dans ces camps-là, c'était quoi les impacts, mettons, les principaux impacts psychologiques des victimes suite à la Shoah?
Il y a un étagement, c'est-à-dire les gens qui ont été eux-mêmes victimes, qui ont vu les camps, qui ont vu les massacres, qui ont été des témoins oculaires, sont restés avec des traumatismes extrêmement lourds et profonds, qui ensuite, dans un deuxième temps, ont été transmis à leurs descendants. Alors, en général, on fait une explication, une typologie. Les victimes, à proprement parler, les victimes elles-mêmes, de 33 à 45, les descendants des victimes à la deuxième génération et même à la troisième génération aujourd'hui. Alors, chaque étagement reçoit cet événement d'une manière différente. Et un des moyens qu'ils ont choisi d'utiliser, c'est le témoignage. Donc, raconter, expliquer, faire connaître, soutenir la recherche sur ces événements pour qu'on ait un portrait plus clair, qu'on puisse aussi mieux comprendre ce qui s'est produit. L'autre volet, c'est la commémoration, c'est-à-dire rappeler les événements, rappeler le souvenir des personnes qui ont disparu, expliquer aux nouvelles générations ce qui est arrivé du point de vue des victimes. Là, on est à un point où les victimes oculaires, il en reste très peu, il en reste vraiment pas beaucoup. Ça fait 80 ans que la Shoah s'est terminée. Pour avoir des souvenirs oculaires, il faut avoir au moins 10 ans. Avant ça, il serait difficile de croire que quelqu'un aurait une notion claire de ce qui est arrivé avant, en ayant moins 10 ans au moment où ils ont été victimes, où ils ont été témoins. Alors, le volet recherche et le volet témoignage maintenant prend plus de place. Témoignage dans le sens de commémoration. Rappeler les événements, rappeler les processus, rappeler les souffrances, etc. Donc, à travers l'histoire, il y a une évolution. Les événements ont eu lieu à un certain moment et maintenant, à mesure qu'on s'éloigne de cette période-là, on a une perception différente et on raconte les choses autrement.
En gros, les générations de familles juives, est-ce que ça a été difficile pour elles?
Certainement, ça a été très difficile pour les gens qui étaient de la deuxième génération, c'est-à-dire qui étaient les enfants des victimes, qui n'ont pas été victimes elles-mêmes, mais qui ont été témoins des récits de leurs parents, qui savent très bien ce qui est arrivé à leurs parents ou à leurs oncles ou à leurs tantes ou à leur famille. Alors, il est arrivé des gens à Montréal, jeunes, à partir des années 48, 49, 50, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui avaient perdu toute leur famille, qui étaient orphelins, qui ont survécu parce qu'ils avaient été cachés enfants ou parce qu'ils avaient pris la fuite dans la forêt, etc. Ces gens-là, évidemment, le souvenir va rester très présent. C'est clair que pour les victimes, le récit de leur souffrance, c'est une chose extrêmement importante à exprimer.
Ah ben écoute, vraiment merci beaucoup. C'était vraiment intéressant de vous entendre parler sur le sujet. Puis j'avais beaucoup de questions que j'avais pensé pouvoir vous en dire et vous m'avez donné des réponses, donc je suis quand même très content. Pour de vrai, merci beaucoup de m'avoir accordé cette
Ça m'a
entrevue.
fait plaisir, Maxime.